Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sidoudia, bonjour. Les États-Unis ont appelé hier le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir en Guinée, à établir un calendrier électoral après sa prestation de serment vendredi dernier comme président par intérim. Ils appellent la junte à nommer un civil à la tête du gouvernement de transition et à s'engager sur un calendrier pour des élections libres et équitables et un retour du pays à la loi civile, la démocratie et l'ordre constitutionnel, a déclaré une porte-parole du département d'État. La population civile, dont les dirigeants de l'opposition, les femmes et les groupes marginalisés, devront avoir un rôle central dans cette transition, a-t-elle ajouté. Le colonel Doumbouya a juré de consolider les acquis démocratiques après avoir assuré que la junte rendrait le pouvoir aux civils après des élections organisées à la fin d'une période de transition dont la durée n'a jamais été précisée depuis le coup d'État du 5 septembre. 14 soldats burkinabés ont été tués et 7 blessés hier matin dans une attaque contre un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso, a annoncé le ministère de la Défense. Des sources sécuritaires avaient, dans un premier temps, évoqué un bilan d'au moins 9 soldats tués. Selon le ministre délégué à la Défense, le général Barthélemy Simporé, plusieurs terroristes ont été également neutralisés au cours de la riposte. Le général nigérian Ibrahim Manu Yusuf, commandant de la FMM, Force Multinationale Mixte, a déploré hier à Yaoundé l'insuffisance de ses équipements et réclamé davantage de moyens. La force regroupe des unités des armées tchadiennes, camerounaises, nigériennes, nigérianes et béninoises pour combattre les djihadistes dans la région du lac Tchad. Au Soudan, un soldat et 4 terroristes ont été tués hier lors d'échanges de tirs à Khartoum entre les forces de sécurité et des djihadistes présumés, a rapporté un média d'État. Environ une semaine après la mort de 5 officiers dans des affrontements similaires. En République démocratique du Congo, la douleur des femmes et la réticence de beaucoup d'entre elles à dénoncer les agressions qu'elles ont subies ont été évoquées hier à Goma, au nord Kivu, où ont été présentés les résultats d'une enquête sur des violences sexuelles commises par des employés de l'OMS durant l'épidémie d'Ebola qui a sévi entre 2018 et 2020. Les États-Unis veulent nouer un partenariat avec les pays abritant les grandes forêts de la planète, dont celle du bassin du Congo, en vue de protéger ces couverts végétaux qui participent à la régulation du climat, a déclaré ce lundi à Brazzaville Jonathan Pershing, émissaire spécial adjoint du président américain pour le climat. 2 doses de vaccins Pfizer-BioNTech sont efficaces contre les risques d'hospitalisation liés au COVID-19 et tous ses variants pendant au moins 6 mois, indique une étude parue ce mardi dans la revue The Lancet, confirmant de précédentes estimations. Facebook a indiqué hier soir dans un communiqué que la panne d'envergure mondiale sans précédent de ses réseaux et messageries avait été causée par un changement de configuration défectueux de ses serveurs qui a empêché ses utilisateurs d'accéder à la plateforme Instagram, WhatsApp ou Messenger pendant environ 7 heures. À 90 ans, William Shatner, l'acteur qui a incarné en premier le mythique capitaine Kirk de la série Star Trek, va prendre place à bord de la prochaine mission dans l'espace de Blue Origin. La semaine prochaine, a confirmé hier la société spatiale. La Russie, pour sa part, envoie ce mardi dans l'espace l'actrice Yulia Peresil, de 37 ans, et le réalisateur Klim Tchipenko, 38 ans, pour y tourner le premier long métrage en orbite de l'histoire. L'enjeu est de devancer le projet de film dans l'espace de Tom Cruise, dont le calendrier n'est pas lui connu. Washington. La suite de nos informations, la Libye franchit un nouveau pas dans le processus électoral. Le Parlement a adopté la loi électorale régissant les élections législatives, a affirmé hier son porte-parole. Plus de détails avec Nani Talani.
Approbation de la loi électorale pour la Chambre des représentants lors de la session d'aujourd'hui a annoncé sur Twitter le porte-parole du Parlement Abdallah Bihek. L'adoption de cette loi intervient moins d'un mois après la ratification sans vote d'un texte devant régir l'élection du futur président lors du double scrutin prévu en décembre. La publication le 9 septembre de ce texte signé par le chef du Parlement Aguila Saleh a été fustigé par des députés et d'autres instances écartées du processus de législation. Il reproche à M. Saleh d'avoir voulu favoriser son allié, le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'Est et une partie du Sud du pays et de plus en plus pressenti comme candidat à la présidentielle. L'article qui concentre les critiques prévoit qu'un militaire peut se présenter à la présidentielle à condition de se suspendre de ses fonctions 3 mois avant le scrutin et que, s'il n'est pas élu, il puisse retrouver son poste et recevoir ses arriérés de salaire. Crucial pour l'avenir du pays, les élections de décembre restent hypothétiques en raison des profondes divisions qui continuent de faire rage entre les caciques libyens. Des représentants du Haut Conseil d'État libyen ont déjà appelé la communauté internationale à soutenir le processus politique en cours dans le pays.
Plusieurs pays et dirigeants ont rejeté hier les révélations de l'enquête Pandora Papers du Consortium international des journalistes d'investigation, accusant plusieurs centaines de responsables politiques et leurs proches d'avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale. Claire Morin-Gibourg.
Mise en cause, le premier ministre ivoirien Patrick Hachi a démenti toute action illicite. Selon cette enquête, M. Hachi contrôlait une société aux Bahamas jusqu'en 2006 au moins. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a détenu pendant près de 20 ans une société offshore dans les îles Vierges britanniques, tandis que le président gabonais Ali Bongo y a contrôlé à la fin des années 2000 deux sociétés offshore, selon le quotidien français Le Monde, partenaire de l'ICIJ. Ayant fait campagne sur la lutte contre la corruption, le président kényan Uhuru Kenyatta possède une fondation au Panama et plusieurs membres de sa famille directe détiennent plus de 30 millions de dollars logés dans des comptes offshore. Sans répondre aux accusations, M. Kenyatta a salué une enquête qui, je le cite, « va contribuer à améliorer la transparence financière ». Publiée dimanche, cette enquête à laquelle ont collaboré environ 600 journalistes a mis au jour plus de 29 000 sociétés offshore.
Le président américain Joe Biden met la pression sur le Congrès pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement des États-Unis le 18 octobre, ce qui serait une première. Le président Biden qualifie les républicains d'irresponsables. Le point avec Abdulrahman Dia.
À 2 semaines de la date butoir, le locataire de la Maison-Blanche a déroulé un discours très pédagogique, mais également très politique. Joe Biden prévient que si les États-Unis entrent en défaut de paiement, les taux d'intérêt vont monter, les retraites seront menacées, de même que les salaires de certains fonctionnaires. Les prestations sociales des vétérans seront aussi remises en question, a-t-il dit. Et si cela arrive, accuse le président, ce sera la faute d'une opposition républicaine dangereuse et irresponsable, selon ses propres termes. Ne vous mettez pas en travers du chemin, a-t-il réclamé, au moment où les démocrates essayent de faire passer un texte augmentant la capacité d'endettement du pays et écartant un défaut. Le Parti démocrate dispose d'une majorité trop mince pour pouvoir relever le plafond de la dette avec ses seules voix si le Parti républicain décide de faire obstruction au Sénat. Les législateurs ont relevé ou suspendu au moins 78 fois ce plafond de la dette depuis 1960. Il s'agit d'un seuil maximum légal accordé par le Congrès en matière d'emprunt. Actuellement fixé un peu au-dessus de 28 000 milliards de dollars, le Trésor estime qu'il sera atteint le 18 octobre.
La Minute Éco, John Linden.
Le Togo s'attend désormais à une croissance de 5,3% du PIB en 2021. En mai et juillet dernier, le pays avait annoncé s'attendre à une croissance de 4,5% puis de 4,8%. Selon Financial Afrique, le Togo table désormais sur une croissance de 5,3% de son PIB, alors que le taux d'inflation ne fléchit pas. Ce rebond de l'activité sera essentiellement porté par les investissements opérés dans le domaine des infrastructures et par la hausse de la production agricole. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir l'une des meilleures destinations touristiques du continent à l'horizon 2025. À en croire Financial Afrique qui cite des chiffres officiels, les flux touristiques en 2018 étaient estimés à 3 millions de touristes. Le secteur ivoirien du tourisme et des loisirs a généré 1,8 milliard de dollars de revenus et contribué à hauteur de 6,25% du PIB. En 2019, ces chiffres se sont bonifiés, passant à 4,2 millions de touristes et à 2,4 milliards de dollars de revenus, pour un apport de 7,3% dans le PIB du pays.
Merci, John. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. L'international ivoirien Serge Aurier, 28 ans, a signé un contrat avec Villarreal, a annoncé le club espagnol. Libre depuis le mois d'août et la fin de son contrat avec les Spurs, l'ancien latéral droit de Tottenham et du Paris Saint-Germain rejoint le sous-marin jaune pour une saison plus deux en option. Il retrouve ainsi Unai Emery, entraîneur sous les ordres duquel il a déjà évolué au Paris Saint-Germain pendant la saison 2016-2017. Aurier a joué 77 matchs de Premier League avec Tottenham, mais a perdu son statut de titulaire sous Mauricio Pochettino puis José Mourinho. Le capitaine ivoirien fait partie de la liste qui participera au match de qualification au Mondial 2022 au Qatar contre le Malawi à Cotonou au Bénin le 11 octobre et ne rejoindra ses nouveaux coéquipiers qu'après la trêve internationale. Doubler la fréquence de la Coupe du Monde de football comme l'envisage la FIFA serait néfaste pour le foot féminin, affirme l'UEFA, l'Association européenne des clubs et plusieurs grandes fédérations dans un texte commun. Le projet de l'instance d'organiser tous les deux ans un mondial masculin et féminin, au lieu de 4 ans aujourd'hui, aura des conséquences sportives, économiques et sociétales profondément néfastes qui altéreront le développement du football féminin, précisent ces organisations. Leur communiqué est le dernier épisode en date dans la bataille de l'opinion qui oppose depuis début septembre la FIFA et ses alliés, partisans d'un mondial biennal et un front composé de l'UEFA, la CONMEBOL, le Forum des Ligues mondiales et des représentants des supporters et joueurs. Dominique Nathau, le président de la Fédération française de boxe, s'est insurgé contre les conclusions du rapport du juriste canadien Richard McLaren. Ce dernier a publié un rapport mettant en cause plusieurs boxeurs français ayant, selon lui, livré des combats au JO 2016 dont l'issue aurait été manipulée. Personne n'a le droit de salir les boxeurs et les boxeuses français en se basant sur des analyses aussi approximatives qu'infondées, affirme Dominique Nathau. Richard McLaren et son équipe ont confirmé l'existence d'un système de tricherie orchestré au sein de la Fédération internationale de boxe. Ils ont identifié 11 combats suspects lors des Jeux de Rio. Parmi ces combats, près de la moitié ont débouché sur des médailles françaises, à commencer par les finales remportées par Tony Yoka face au Britannique Joe Joyce dans les plus de 91 kilos et par Estelle Mosseli contre la Chinoise Junhua Yin dans les moins de 60 kilos.
Merci Yacouba. Pandora Papers, l'enquête de l'ESIJ, le consortium international des journalistes d'investigation, met en lumière le décalage entre le discours anticorruption de certains leaders et leur usage extensif des paradis fiscaux. Plus de 300 responsables politiques du monde entier, des stars ou des criminels, sont pointés du doigt. Pour en parler, Eric Manera-Kidza, adjoint ici à Washington, Will Fitzgibbon, coordinateur du partenariat Afrique et du Moyen-Orient auprès de l'ESIJ.
Les révélations des Pandora Papers en ce qui concerne Afrique sont plus
plutôt étonnante. On voit de divers chefs d'État, y compris Uhuru Kenyatta ou Kenya, le président. On voit même des sociétés offshore détenues par Denis Sassou Nguesso et aussi une société offshore en partie détenue par président Bongo au Gabon. Et ça, c'est ne que des chefs d'État, sans compter de divers ministres, le premier ministre ivoirien. Il y a vraiment beaucoup de noms africains et je pense que c'est pour cela que cette enquête est vraiment importante pour le continent.
Et quel est le montant au niveau du continent, justement?
Les documents, dans chaque cas, ne nous permettent pas de savoir pour quelle société ou quelle personne les montants en question. Ce que nous savons, c'est que dans chaque cas, concerne des dirigeants africains, des hommes politiques africains, nous avons trouvé aucune trace de la déclaration de ces hommes politiques, c'est-à-dire M. Hachi en Côte d'Ivoire. Selon notre recherche, il n'a jamais déclaré l'existence de son compte offshore. Ça ne va pas dire que c'est illégal ce qu'il a fait, pas du tout. On ne parle pas forcément des questions d'illégalité, mais le fait qu'un premier ministre ne dévoile pas ses sociétés offshore, or les sociétés offshore sont très souvent utilisées dans des scandales. C'est un problème et c'est pour cela que nous dévoilons les secrets financiers de ces politiques africains.
Vous dites que les transactions ne sont pas illégales. Est-ce que c'est de l'argent acquis illégalement?
On ne peut pas dire cela non plus. Certes, on peut se poser des questions. Comment ces hommes politiques ont fait de l'argent? Malheureusement, je dois dire, il y a très peu de dirigeants africains qui ont daigné nous répondre. Le président du Kenya ne nous a jamais répondu. Monsieur Hachi ne nous a jamais répondu. Or, nous les avons donné des semaines à répondre à nos questions, donc un délai très très généreux. Même si on ne voit pas des transferts de l'argent, mais parfois on voit des comptes bancaires à l'étranger, par exemple dans le cas de Monsieur Hachi, je pense que c'est très important de comprendre que ce n'est pas les sujets de Pandora Papers ne sont pas importants uniquement si on parle de illégalité. Pas du tout. On parle des hommes politiques qui sont élus pour représenter des citoyens. Or, nous découvrons maintenant qu'ils ont caché quelque chose, des choses très très importantes. Donc c'est pour cela, encore une fois, que nous faisons ces enquêtes, malgré les pressions. Parce que je peux vous dire, en parlant avec des journalistes en Afrique avec qui j'ai travaillé, il y a beaucoup, beaucoup de pression venant de ces hommes politiques en Afrique. Ils ne veulent pas que ces secrets soient dévoilés.
Et quel est l'impact de ces paradis fiscaux sur l'économie africaine ou de ces pays?
Justement, c'est la raison peut-être la plus importante pour laquelle nous faisons ce genre d'enquête, c'est que selon l'ONU, selon le FMI, selon de divers experts, le continent africain perd des millions et des milliards de dollars chaque année à cause des paradis fiscaux, à cause de ces coquilles vides, c'est-à-dire des sociétés anonymes créées dans des paradis fiscaux. Donc notre enquête contribue à la lumière qui sera portée sur ce système pour que, nous espérons, il y ait moins d'argent qui sorte du continent africain.
Will Fitzgibbon, coordinateur du partenariat Afrique et du Moyen-Orient auprès de l'ICIJ, un réseau de journalistes et de médias basé à Washington. Les étudiants et promoteurs d'universités privées en zone anglophone se ruent vers les villes francophones du Cameroun. Cependant, ils y connaissent des fortunes diverses alors qu'ils fuient les exactions consécutives au conflit entre l'armée et les séparatistes anglophones depuis fin 2016. Le 4 octobre 2021 est la date officielle de la rentrée académique au Cameroun. Notre correspondant a rencontré quelques étudiants et un promoteur d'une université privée installée en zone francophone. Reportage réalisé à Douala par Emmanuel Jultap.
Une nouvelle vie commence pour ces 4 étudiantes déplacées en termes de la crise anglophone. Elles entament cette année, à Douala, une formation en soins infirmiers dans cet institut privé. Christelle est originaire du Sud-Ouest.
J'ai une de mes tantes, c'est elle qui a payé mon école pour que j'obtienne le BEPC et le baccalauréat. Et cette année, je ne devais pas faire mes études, mais elle a fait tout ce qui était possible pour que je sois admise dans une école des infirmières parce que je lui ai dit que c'était mon souhait de fréquenter une école de médecine.
Jeannette a elle aussi fui la crise dans le Nord-Ouest. C'est depuis un an qu'elle veut suivre une formation en soins infirmiers.
Je suis arrivée ici pour avoir des informations concernant l'école, puisqu'elle forme en anglais. Et j'ai découvert que le coût était élevé. Je suis rentrée à la maison, où je suis restée un an sans aller à l'école. Et j'ai choisi de faire quelque chose pour avoir de l'argent. Et je suis revenue cette année à l'école, parce que j'ai déjà de l'argent pour payer les frais.
Les enseignements dispensés en anglais dans cet institut qui forme au métier de la santé, mais aussi agricole et technologique, sont un atout pour les étudiants anglophones déplacés de la crise. Mais certains vivent dans la détresse à Douala.
J'ai obtenu mon baccalauréat il y a 5 ans. J'ai dû faire certains travaux et épargner de l'argent. Quand je suis arrivée l'an dernier, j'ai eu des informations sur l'école. J'ai pris seulement Dieu, je ne sais pas comment je vais parvenir, mais j'espère que je pourrai étudier ici. Entre-temps, j'ai pu faire certains travaux. C'est pour cela que je suis venue m'inscrire et commencer l'école aujourd'hui.
Le promoteur de l'Institut Saint-Louis a lui-même subi les conséquences de la crise anglophone. L'école, basée depuis 20 ans à Bamenda, tourne au ralenti. À Douala, le docteur Nick Ngwanyan a dû reconstruire 3 nouveaux campus.
Donc on a commencé à Bamenda avec 7 filières. C'était uniquement en anglais. Et avant que la guerre ne s'éclate, il y a de cela 4 à 5 ans, on avait un effectif de 1600 étudiants. Et il faut dire que la moitié de ces étudiants-là étaient les étudiants francophones. Quand la guerre s'est éclatée, je suis allé envers le ministre de l'Enseignement supérieur et il a eu le bon cœur de me donner encore l'autorisation de venir commencer cette école à Douala. Et en plus, il m'a donné encore une autre autorisation de faire la même chose à Yaoundé. Donc l'école de Yaoundé a commencé ce matin pour la première fois dans notre...
Les séparatistes ont contraint les étudiants en zone anglophone, le jour de la rentrée académique, à rester à la maison pour faire respecter la journée ville morte imposée chaque lundi aux populations. Emmanuel Junta, VOA Afrique, Douala.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Bénin, le gouvernement a initié un projet de loi qu'il a soumis aux députés pour la protection de la femme contre les agressions sexuelles. La tentative de harcèlement sexuel et le harcèlement sexuel deviendront des infractions pénales au même titre que le viol, qu'il soit commis sur mineur ou non. Précision de Ginette Fleur à Dandé. Notre correspondante à Cotonou.
Ces derniers mois ont été marqués par l'arrestation de plusieurs personnes accusées de viol et de harcèlement sexuel. Et pour Patrice Talon, il est indispensable de donner à l'Institut national de la femme les moyens nécessaires pour protéger les femmes au Bénin.
Nous allons donner à l'Institut de la femme tellement de moyens que la lutte contre ces infractions, je vais le répéter, sera encore plus visible, plus farouche que la lutte contre la corruption ou contre l'impunité en matière de crimes économiques. Parce que ce fléau fait encore plus de dégâts que la corruption, que les crimes économiques.
Avec le durcissement des sanctions, ces infractions seront punissables à des peines d'emprisonnement ferme allant de 3 à 20 ans. La présidente de l'Institut national de la femme se réjouit de l'implication du président de la République dans la lutte contre les agressions sexuelles faites sur les femmes. Claudine Prudencio.
Je sais que beaucoup de nos compatriotes attendent ce moment depuis. Tant les enjeux de défense et de promotion de la cause de la femme béninoise sont énormes, tant l'actualité nous donne à voir assez de preuves qu'il use d'agir et d'agir vite dans le champ d'action qui est celui de l'Institut national de la femme. Les Béninois, dans leur grande majorité, sont conscients de la nécessité d'agir et d'agir sans plus tarder.
Les Béninois apprécient diversement ce projet de loi qui, une fois adopté par les députés, viendra renforcer la loi qui existe déjà. Pour les hommes, c'est une bonne chose, même si la société refuse de se pencher sur le cas des hommes harcelés.
C'est un fait réel. Et dans les milieux professionnels, surtout où les hommes et les femmes se côtoient, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'ai connu des femmes qui ont été très directes et catégoriques. Monsieur, je ne peux pas, je suis mariée. Dès qu'elles ont dit ça, On les néglige, comme on le dit, on les dépose dans un garage parce qu'on ne veut plus les voir, parce qu'elles n'ont pas dit oui et n'ont pas dit oui.
Moi, je pense que les responsabilités doivent être partagées. Il y a des femmes qui sont déjà stéréotypées dans la tête, qui se disent, il faut que j'atteigne ce poste-là. Vous voyez, une fois qu'elles se disent ça dans la tête, elles se donnent tous les moyens pour pouvoir y parvenir.
Pour les femmes, c'est bien de penser au renforcement de la loi, mais il faudrait sensibiliser les femmes à ne pas donner aux hommes des raisons de se faire harceler. Tout sera mis en œuvre pour conférer à la femme toute sa dignité, a martelé Patrice Talon.
L'Institut a automatiquement la qualité de partie civile. Quelle que soit la personne, la victime, quel que soit l'auteur, elle peut se constituer automatiquement partie civile, quand bien même la victime n'est pas plaignante. Si le fait est dénoncé et que le parquet engage l'action, l'Institut se met automatiquement partie civile. C'est une innovation extraordinaire et ça donne tous les moyens à l'Institut, à l'État, de pouvoir poursuivre qui que ce soit, quand bien même parfois la victime est dans le silence.
Très remonté contre les pratiques malsaines de certains professeurs, le président de la République a invité les acteurs à divers niveaux à s'impliquer davantage pour la protection des filles et des femmes. De Cotonou, Jeannette Fleur dans les pour VOA Afrique.
Au Sénégal, la pêche artisanale connaît une crise sans précédent. Les causes sont multiples, mais tous les acteurs du secteur s'accordent sur un fait. Les ressources halieutiques font face à une surexploitation. Un motif d'inquiétude dans un pays à forte tradition de pêche. Reportage à Dakar d'Alison Lekogo Fernandez et Mbaindir.
Il est 14h sur la plage de Yoff à Dakar. C'est l'heure du retour sur la terre ferme pour Adam Afal, capitaine de pirogue, et ses compagnons après 10 heures passées en mer. Dans leur filet, essentiellement des petits poissons. Une pêche décevante, comme c'est bien souvent le cas depuis des mois.
C'est devenu très difficile. Nous devons parfois parcourir jusqu'à 100 km pour trouver des poissons. Tout ça, c'est parce que le président a vendu la mer aux navires industriels. C'est pour ça qu'on ne trouve plus de poissons. Il y a des bateaux africains, européens. Quand ils jettent leurs filets, il ne nous reste plus rien.
La pêche occupe une place prépondérante dans l'économie sénégalaise. Elle fait vivre plus de 600 000 personnes et contribue à hauteur de 3,2% du PIB national. La pêche joue également un rôle primordial dans l'alimentation des populations. Pour de nombreux acteurs du secteur, la crise s'est aggravée il y a 2 ans. Moussa Mbeng, secrétaire exécutif de l'Association Ouest-Africaine pour le développement de la pêche artisanale, s'inquiète de l'état des stocks des ressources halieutiques.
Avant, on connaissait une raréfaction au niveau des espèces, principales espèces des messales côtières, qui étaient des experts dits d'Europe, qui faisaient l'objet d'exportations. En ce moment, les pélagiques côtiers se portaient assez bien, mais aujourd'hui, la situation s'est aggravée avec la surexploitation des principales espèces pélagiques côtières.
Des espèces qui n'ont pas le temps de se reproduire. Moussa Mbeng pointe l'attribution des licences de pêche, l'implantation d'usines de production de farine de poisson, mais aussi les mauvaises pratiques. Les autorités, elles, rappellent que la pêche en pirogue artisanale assure plus de 80% de la pêche annuelle au Sénégal, soit 450 000 tonnes, contre 20% pour la pêche industrielle. Afin de préserver les ressources, les permis de pêche ont été gelés depuis 2018, mais la mesure peine à être respectée. Ismaël Ndiaye, chef du service régional des pêches et de la surveillance de Dakar.
Nous avons toujours des difficultés vraiment pour faire respecter la réglementation, parce que toujours il y a des gens qui trichent. Et ils ont toujours comme alibi qu'il n'y a plus de poissons. C'est difficile, il faut qu'on mange, on ne peut pas rester comme ça. Mais nous sommes obligés aussi, nous aussi, de faire appliquer la loi.
Pour plus de transparence dans l'attribution des licences de pêche, les acteurs du secteur demandent aux autorités la publication de la liste des bateaux autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. Une demande restée lettre morte à ce jour. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
« Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seboudia et de Georges Léonard Sagnot à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.